Vous écoutez Derrière le Point FR, un podcast qui décrypte les enjeux de l'Internet d'aujourd'hui et de demain. Dans cette collection, nous revenons sur la bascule de l'ensemble des services d'enregistrement et de gestion des noms de domaine en .fr et ultramarin en octobre 2022. Dans le premier épisode, nous échangions avec Régis Massé, DSI de l'AFNIC, qui a piloté le projet de la bascule. Parmi les autres acteurs clés de cette opération, deux AFNICiens. Mélisa Martin, responsable assurance et qualité, et Richard Coffre, chef de projet. Ils participent tous les deux à la supervision des étapes de planification, de programmation et de gestion des versions de logiciels, du développement au déploiement en passant par la phase de test. Mélisa apporte une vue d'ensemble industriel et Richard insuffle la méthodologie du projet, la méthode agile, faisant ainsi évoluer la manière de travailler à l'AFNIC. Avant de les retrouver tous les deux, plantons le décor. Épisode 2, minuit, le go.
Ce 1er octobre 2022, à 23h, plusieurs AFNICiens sont présents dans les bureaux de l'AFNIC. Régis Massé, Mélisa et les DevOps. Ce sont eux qui ont géré toute la phase technique des derniers tests. Depuis deux semaines, les nuits sont courtes. Un seul objectif en tête, réussir la migration. L'horloge tourne, bientôt l'heure de couper l'ancien système pour passer à l'extraction des anciennes données et les incorporer sur la nouvelle plateforme. À minuit, ce sera le go.
Bonjour Mélisa.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez géré l'équipe opérationnelle de nuit avec Régis Massé. Dès 23h, l'équipe est dans les starting blocks. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment tout a commencé? Quelles étaient les premières étapes, Mélisa?
Tout d'abord, il fallait déjà exporter les données de l'ancien système. Ouais. Et pour ça, il fallait qu'on coupe avant minuit, l'ancien système.
Ah, il faut couper et ensuite on exporte, c'est ça?
C'est ça, tout à fait. Et après, une fois que les services sont coupés, on commence à lancer l'export des données pour pouvoir les importer dans le nouveau système.
Ça a duré combien de temps, cette étape-là?
Alors, cette étape, ça a duré 1h30, d'accord, en sachant que derrière, on allait créer des fichiers et qu'il fallait qu'on vérifie la cohérence des données avant de faire l'import.
Bien sûr. Et donc, du coup, une fois que cette extraction est réalisée, vient, j'imagine, la phase d'import des données?
C'est ça. Tout en suivant une feuille de route bien définie, qui était chronométrée et qui a inclué 32 étapes clés, on a lancé l'import.
Ça prend un peu plus de temps, ça, quand même.
Ça, plusieurs heures. Ça peut monter jusqu'à plus de 4 heures. En suivant la feuille de route, ça nous a permis de voir qu'on suivait bien la bascule et d'anticiper les étapes suivantes.
Ouais, il faut s'imaginer qu'il y a 32 étapes de contrôle sur ces fichiers, hein.
Donc, tout à
fait. Faut les faire les unes après,
voilà,
les autres.
Avec des étapes de go, no go pour vérifier que tout allait bien.
Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur votre équipe et la spécificité des DevOps?
Un ingénieur DevOps, c'est un ingénieur qui se trouve à la frontière entre les développements et la partie exploitation, donc l'opérationnel.
D'accord.
L'approche DevOps permet d'apporter des processus et des outils pour faciliter la partie déploiement des applicatifs.
Donc, ils viennent avec un certain nombre de procédures, d'outils qui vont accompagner les différentes étapes de migration, enfin d'un projet en général, c'est ça?
C'est ça, tout à fait.
Okay.
Jusqu'à leur maintenance et leur mise à jour.
Très bien. C'est la garantie qu'une méthodologie est employée pas à pas et qu'on suit une feuille de route quelque part.
C'est ça, tout à fait.
Ok. Et donc, c'est pas les mêmes compétences entre ces équipes de développement et ces équipes d'exploitation. Est-ce que je me trompe si on dit qu'elles poursuivent pas forcément les mêmes objectifs?
Non, pas du tout. Les développeurs sont plus axés sur ajouter des nouvelles fonctionnalités à des applications,
ouais,
alors que les équipes d'exploitation permettent la garantie de la stabilité de ces applications.
D'où l'intérêt d'avoir ces DevOps qui vont quelque part unifier, automatiser les processus pour coordonner tout ça.
Tout à fait.
D'accord. Et ça, c'est votre travail avec l'équipe que vous...
C'est le travail de l'équipe DevOps.
Très bien. Cette phase d'import, elle n'a pas été sans rebondissement. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, que vous avez rencontré un problème, je crois. Vous allez nous raconter. Et comment vous avez réagi? C'était la panique à bord?
Un peu la panique, oui. En fait, le jour J, on a eu une donnée qui a fait planter l'import au bout de 3 heures. Alors, c'est une phase très délicate dans le sens où avant la bascule, on a fait énormément de tests, mais on ne pouvait pas les faire sur les tests de production de l'ancien système. Il a fallu le faire sur une copie de la base, donc avec des données figées.
D'accord. Donc, c'est-à-dire que les vraies données qui sont dans vos bases de données à l'AFNIC, elles évoluent tous les jours.
C'est ça.
Et vous avez fait des tests sur la base d'une photographie de ces données à un instant T, sur lesquelles vous avez fait des tests qui étaient concluants, mais entre-temps, La base évolue et il y a des nouvelles choses qui arrivent dans la base de données. Mais c'est bien sur cette base-là qu'il va falloir faire l'import et l'export, c'est ça?
C'est ça, tout à fait. On a essayé de faire le maximum de tests en incluant tous les tests possibles, mais malheureusement, ben, on est tombé sur un cas.
Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas-là, alors?
Eh ben, on a eu de la chance parce qu'il y a eu la relève des développeurs qui sont arrivés à ce moment-là.
Ouais.
Et en moins d'une heure, ils ont pu corriger le problème et relancer l'import.
Et quoi, c'est un caractère? C'est quelque chose comme ça qui casse tout?
C'est juste une opération, en fait, qui a cassé l'import. Et une petite donnée qui n'était pas au bon endroit. Et donc, grâce aux développeurs, on a pu relancer l'import. Donc, on a perdu un peu de temps, mais voilà, on s'est fait une belle frayeur, mais tout s'est bien passé.
Tout s'est bien passé.
Voilà.
Richard Coffre, bonjour.
Bonjour.
Alors, je le disais en introduction, Richard, vous êtes chef de projet spécialisé dans la méthode agile. Comment s'est déroulée la phase de testing?
Alors, comme Mélisée l'a dit, je suis arrivé au moment où il y a eu l'incident, donc au moment où la pression a été augmentée. Et là, on était en train de faire nos tests. Donc, comme elle expliquait, c'est-à-dire qu'on fait par carottage, on va dans la base. On regarde justement par rapport aux 32 points cités précisément, est-ce que ça s'est bien fait? Est-ce que ça s'est pas bien fait? On vérifie les opérations. Bon, c'est des choses de très cycliques, mais très séquentielles pour s'assurer.
Et une grande rigueur, j'imagine, dans chacun des
fait.
Points, parce ça peut entraîner des effets d'escalier, quoi.
Exactement. Et comme le disait Mélisa, en plus, on avait des go, no go à faire régulièrement avec toute la hiérarchie pour s'assurer que, OK, ça s'est fait. On passe à la suite. Ça s'est fait. On passe à la suite. Et donc, il a fallu coordonner toutes les équipes pour que ça fonctionne plutôt pas mal, quoi. Et ça fonctionnait plutôt pas mal.
Alors, les tests, c'est quoi? C'est créer un nouveau nom de domaine, mettre à jour le registre, c'est tout ça, les tests?
Effectivement, la vie d'un nom de domaine, elle est faite, elle est basée sur 3-4 opérations. Je le crée, je le mets à jour, je le supprime. Mais là, c'est justement, après la migration des données, s'assurer que toutes ces opérations-là étaient fonctionnelles. Donc, il y en avait, je dirais, qui avaient été faites tout de suite. Et après, une partie de l'équipe de Mélisa, les testeurs, ont balancé toutes les opérations comme ça assez massivement, dans plusieurs conditions, pour qu'on s'assure que tout fonctionnait.
Qu'est-ce qu'un carottage? Vous avez évoqué le test par carottage. Est-ce qu'on peut expliquer ce que
Exactement,
c'est?
Exactement. Mais c'est la base des noms de domaine, c'est 4 millions de noms de domaine. Donc, bien sûr, je peux pas passer tout au fil de l'eau. Donc là, je me dis, bon, dans tel type de nom de domaine, je vais aller en prendre un. Dans tel autre type, je vais en prendre
c'est
un.
C'est des échantillons.
Exactement. Globalement, je m'assure que tout fonctionne, mais j'ai pas besoin de passer. De toute façon, ça aurait pas été possible.
Ouais, voilà. C'est pas possible. À la fin de chaque grande étape, comment ça se passe, ce go, no go? Ça se fait par qui, d'ailleurs, alors, cette décision?
Alors, comme l'a dit Mélisa, il y avait une liste, donc une checklist, hein, comme dans les avions, les pilotes, allez, tac, 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 on coche. En équipe, sur place, on se dit, OK, nous, on a tout coché. Et là, c'est Mélisa qui discute après avec Régis et on fait remonter ça à Pierre, qui tranche, Pierre Bonis,
voilà, le DG, DG de la FNIC,
qui tranche pour dire « OK, c'est bon, et on continue, et on passe à la suite ». Ce qui fait qu'il a été au courant tout au long de l'opération de tout ce qui se passait.
Richard, j'aimerais qu'on revienne un peu sur la manière dont les équipes se sont coordonnées pour réaliser cette bascule. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette méthode agile? Je disais en introduction que vous aviez insufflé cette méthode agile au sein de la FNIC. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait cette méthode agile? Racontez-nous.
Voilà, alors, du coup, on ne l'a pas fait que pendant la bascule, hein, parce que c'est vraiment pour le projet. Et c'est une approche qui est en complément de la gestion de projet standard. C'est-à-dire que là, on remet le client au centre, et ce qui fait que quand on exprime des besoins, les développeurs vont bien revalider avec le client que c'est bien ce qu'il veut. S'il faut, on va challenger avec le client. Et donc, non seulement on le remet, mais ensuite, on essaye de faire des points très réguliers pour éviter ce qu'on appelle l'effet tunnel. Quand vous faites gestion de projet traditionnelle, vous prenez votre besoin, votre cahier des charges, puis vous dites au client, on se revoit dans 6 mois. Mais dans 6 mois,
oui, il y a la phase de conception avec le client dans un premier temps qui dure plusieurs mois. Et ensuite, on se revoit plusieurs mois après, une fois qu'ils peuvent tester de leur côté ce qu'on appelle la recette.
Exactement. Alors que là, on fait en sorte que dans cette période qui peut durer 6 mois, au maximum, tous les mois, on se revoit. Et s'il y a des ajustements à faire, on le fait. Et c'est justement cette adaptabilité, cette capacité à se remettre en cause et du coup, à livrer toujours ce qui est nécessaire pour le client, ce qu'il veut réellement et pas ce qu'il a pu imaginer, qu'on a mis en place, je dirais, il y a 5 ans, au début du projet, et qu'on s'est astreint à faire, et qu'on a mis aussi en exergue, justement, lors de la bascule, qu'on a eu le petit souci, on est resté agile et on a pu trouver la solution.
Ce qui est marrant, c'est que historiquement, cette méthode agile, je crois qu'elle vient pas des clients, ça vient des développeurs eux-mêmes qui se sont dit « ça va pas la manière dont on travaille ».
Tout à fait, c'est il y a un peu plus de 20 ans, c'est un groupe de développeurs qui se sont réunis dans l'Utah et qui se sont dit « bon, les gars, on fait tous de l'agile, mais c'est un peu différent, est-ce qu'on pourrait pas définir quelque chose ?» Et donc, ils ont défini le manifeste agile qui a mis en place 4 valeurs et qui en ont découlé 12 principes. Et depuis, on décline ça. Et alors, il y a, je dirais, la méthode agile, la philosophie, et qui est déclinée en plusieurs méthodes, dont le Scrum. Et nous, c'est plutôt cette méthode-là qu'on s'est inspiré.
Il y a des variantes, quoi.
Exactement. Le Scrum avec quelques rôles spécifiques comme les Scrum Masters, les Product Owners, tous ces postes-là qu'on a mis en place au sein de la FNIC.
Donc, des variantes, mais une composante globale qui est de réaliser des sprints, donc des petites sessions de développement à la fin de laquelle le client est tenu au courant, peut tester, peut challenger, peut proposer des évolutions, des correctifs.
Tout à fait.
Plutôt que d'attendre des mois et des mois qu'une somme de travail soit faite pour dire « Ah non, ça va pas dès le début ».
Voilà. Et comme je rebondis, c'est « Ah non, ça va pas », justement, ce qui nous permet à petites étapes de faire « Ah ouais, ça va, c'est super ».
Donc tout le monde est content au fur et à mesure. Logique des petits pas. Mélisa Martin, quelles ont été les évolutions technologiques permises par cette bascule et comment les outils se sont industrialisés ?
Alors, on a mis en place, pour répondre à ce projet, une forge de logiciels.
Une forge logicielle, c'est-à-dire ?
C'est un système d'outils collaboratifs entre les différents services, que ce soit, par exemple, les développeurs, tout ce qui est infrastructure et tout ce qui est partie prenante.
D'accord.
Et en fait, c'est un ensemble d'outils qui permet de partager tout ce qui est documentation et le code source.
D'accord, très bien. Donc, du coup, ça, tout le monde a les mêmes documents, les mêmes outils, et c'est collaboratif, c'est coordonné, et ça permet à tout le monde d'avancer de manière groupée.
Groupée, et ça facilite aussi la partie déploiement. C'est-à-dire que les développeurs, ils poussent leur code dans notre gestionnaire de source, ce qui permet de faciliter le déploiement sur nos différents bancs.
D'accord.
Ensuite, derrière, il y a le testing, qui peut réaliser son travail. Donc, le testing, c'est une partie de l'équipe de DevOps. Nous faisons également des démonstrations aux parties prenantes. Donc, ce sont nos services de juridique, commercial, marketing et communication.
D'accord.
Afin d'avoir leur feedback au fur et à mesure des déploiements.
D'accord, très bien. Mélisa, quels sont les bénéfices apportés au métier de votre équipe depuis la refonte du système d'enregistrement ?
Alors, notre avantage d'avoir refondu toute notre infrastructure, notre façon de faire, c'est de pouvoir déployer au fil de l'eau et plus régulièrement.
D'accord, les fonctionnalités, oui.
Tout à fait. Notre ancien système était plutôt un système monolithique qui, quand on avait besoin de faire une mise à jour, demandait des coupures assez importantes des services. Aujourd'hui, grâce à notre nouvelle infrastructure, on fait des déploiements plus régulièrement, sans arrêt de service, uniquement des perturbations, sans que cela soit visible par les utilisateurs.
Ouais. Et je crois que ça permet aussi d'automatiser un certain nombre de tests à chaque déploiement de nouvelles évolutions ou de correctifs, c'est ça ?
Oui, quand on déploie régulièrement sur notre environnement de test, ce qui fait qu'on peut lancer à chaque déploiement des tests de non-régression, donc c'est ce qu'on appelle nous des TNR, en mode automatique, ou de lancer manuellement des tests sur les nouvelles fonctionnalités.
Oui, pour s'assurer que les évolutions ne vont pas casser quelque chose qui n'aurait pas été prévu au préalable.
C'est ça.
Avant de se quitter, tous les deux, si vous avez un souvenir que vous retenez de cette journée, de cette nuit, quel serait-il, Mélisa ?
Pour moi, c'était, je pense, le coup d'arrêt à 7h30, où en fait, on était à fond dans l'import et grosse coupure. Et là, il y a eu vraiment un gros doute de savoir si on allait continuer ou pas.
Avec la fatigue au bout de la nuit.
C'est ça, oui, parce qu'on était là depuis la veille. Et là, on ne savait pas si on allait continuer. Donc, c'est vrai qu'on voyait un peu l'échec de la bascule jusqu'au moment où, en fait, il y a les développeurs qui sont arrivés et qui nous ont, en fait, sauvé la bascule au final.
Les sauveurs. Richard, un souvenir ?
Le même, vraiment, parce que comme le disait Mélisa, tout se passait bien jusque-là, et là, le grain de sable, mais vraiment le truc où le processus d'escalade, parce qu'on essaie les premières solutions, je dirais que ça va dans tous les sens, mais dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on essaye tout. Même Régis s'est dit, là, le go-no-go, on va l'avancer et contacter Pierre. Et Pierre nous dit, non, je vous fais confiance, continuez, cherchez toujours. On continue à chercher, on trouve, et ça repart. Et là, c'est... Et on continue la journée, tout se passe bien. Voilà.
C'est un souvenir assez marquant, puisque c'est le même pour tous les deux. Ce qui montre que même si on a de la minutie, même si on a de la rigueur, même si on a des checklists, il peut y avoir toujours des problématiques qui peuvent se poser. Mais c'est là aussi un processus qui est de pouvoir corriger ça et de voir les bonnes ressources. En tout cas, on le sent bien. C'est un projet qui a été coordonné et supervisé avec minutie, qui a pu faire évoluer aussi les pratiques au sein de la FNIC avec l'arrivée de la méthode agile. Merci à tous les deux, Mélisa Martin et Richard Coffre, pour votre intervention. Merci beaucoup.
Merci David.
Grâce à vous, on en sait plus sur la méthodologie déployée par la FNIC, des méthodes et des outils qui ont évolué et se sont industrialisés avec le projet de bascule. Dans le prochain épisode, vous pourrez suivre l'opération et le renforcement des équipes du matin et en apprendre davantage sur la démarche d'écoute et d'accompagnement client qui a été déployée. À très bientôt sur Derrière le .fr.